bonjour à toute l'équipe, là-bas si vous y êtes. À quand quelques minutes d'histoire exacte par jour ou par semaine dans les médias pour resituer les luttes de la classe ouvrière? Depuis que les enfants ne vont plus dans les mines, depuis les premiers congés payés de 36. Trop de gens ont la mémoire courte ou la méconnaissance de leur origine, de leurs racines. Comment vivre un présent, un futur, sans savoir d'où l'on vient? Quel serait le feuillage d'un arbre sans racines? Trop de personnes se vautrent dans leurs 5 semaines de congés, sans oser se rappeler qu'elles ne sont pas venues comme ça, toutes seules, ou offertes de grand cœur par les Antoine Ernest de tous les temps. Derrière chaque acquis social, il y a toujours de la peine, des restrictions, des larmes et quelquefois du sang. C'est trop facile et malhonnête de s'en prendre aux grévistes, surtout en acceptant les acquis éventuels sans se mouiller. Je n'étais pas de la ligne de De Gaulle, si ce n'est lorsqu'il a mis en place le vote des femmes en 45, ou le droit aux soldats d'Algérie de se rebeller contre un ordre anti-nation. Mais quelle clairvoyance en notant que les Français sont des veaux. Et encore, c'est pas gentil pour les veaux. Courage et amitié à chacun. Serge du Jura.
Eh ben, c'est une petite pensée comme ça. Que d'énergie pour chercher la vie sur Mars. Et que d'énergie pour détruire la vie sur Terre. C'est Yvan.
Je suis Roland, retraité, 63 ans. Je survis les 4300 francs mensuels. J'ai commencé à bosser à 14 ans. Et je me considère comme un privilégié par rapport à d'autres retraités, sachant que le tiers des retraités ne survivent en France qu'avec 3500 francs mensuels. C'est pourquoi je lance un appel à tous les retraités de France, aux personnes encore pas totalement déshumanisées, pour monter dans chaque département une association qui viendra en aide matérielle, financière aux retraités les plus démunis. Je te lis le texte référence. L'État républicain, étant dans l'impossibilité théorique d'accorder des retraites décentes au tiers de ses retraités ayant travaillé durement toute leur vie active. C'est pourquoi nous décidons d'organiser la vente légale ou sauvage d'objets aux effigies rebelles à l'injustice qui nous est faite. Nous autres retraités, oubliés, abandonnés par l'État dit démocratique, ne voulons pas être traités en nouveaux harkis. Nous réclamons notre dû, minimum retraite de l'ordre de 765 euros, soit 5 010 francs nets mensuels pour tous et toutes, avec indexation totale annuelle sur l'augmentation du coût de la vie. L'argent de la vente de nos objets rebelles sera remis aux retraités les plus nécessiteux par l'intermédiaire des organismes sociaux officiels ou autres. L'honnêteté de cette opération sera consultable à tout moment et par qui en fera la demande. Ne comptez que sur nos propres forces pour survivre décemment dans la dignité. Les promesses politiciennes ne sont que sophismes. Notre esprit rebelle se veut totalement impolitique. Voilà, tous ceux qui seraient éventuellement intéressés peuvent m'appeler au 06 12 99 93 80. Je répète, le 06 12 99 93 80.
Je voulais absolument que vous parliez d'une exposition qui va bientôt se terminer, qui s'appelle « Les yeux de la mémoire ». Ça dure jusqu'au 30 janvier à la mairie du 9e. C'est l'association Fonds de mémoire d'Auschwitz qui fait tout un récapitulatif de cette période, mais d'une façon tellement belle, formidable et intéressante. Et tout le monde devrait voir cette exposition parce que ça nous ferait mieux comprendre certaines choses qui se passent actuellement. Et les enfants surtout devraient y aller parce que c'est des choses qu'ils ne connaissent pas. Et c'est très important qu'on parle, qu'on en parle, qu'on voit, qu'on sache. L'exposition ne dure que jusqu'au 30 janvier. Elle est ouverte tous les jours de 11h à 17h et le jeudi de 11h à 19h30, du lundi au vendredi, 6 rue Drouot, 7509 Paris.
Avis de décès, les infirmes, personnes mises en situation de handicap par la société et l'association des paralysés de France ont l'immense douleur de vous faire part du décès du grand chantier de la République pour les personnes en situation de handicap, remis par le président de la République le 14 juillet 2002. et leurs espoirs pour un véritable accès à tout pour tous et un droit à compensation. Ni fleurs, ni couronne, jeunesse de France, seul le retrait du projet de loi et son profond remaniement pourra calmer la douleur des personnes en situation de handicap. Le convoi funèbre se déroulera le 27 janvier 2004 à Toulouse, la veille de la présentation du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances des infirmes, personnes mises en situation de handicap par la société, tout cela en conseil des ministres. Adresse du deuil et des malheureux, Association des paralysés de France, APF, délégation de Midi-Pyrénées. Nous nous battrons pour vous. Bonne année à tous les infirmes handicapés, parents d'handicapés, malheureux de France.
Voilà les messages du jour sur le répondeur de la base. J'y suis, 01 56 40 37 37. Je répète le numéro de Roland. Il a, c'est lui qui veut que vous l'appeliez. Donc, vous n'êtes pas obligé de laisser vos coordonnées hein, sur le répondeur, mais lui, il y tient. Donc, je vous répète son numéro 06 12 99 93 80. Pour discuter de son projet de vente d'objets rebelles, d'objets aux effigies rebelles. Je ne sais pas ce qu'il entend par là. À vous de voir si ça vous, si ça vous intéresse. 06 12 99 93 80. Aujourd'hui, on finit le voyage en Inde. C'est le dernier jour. Demain sera musique. Musique Inde. Parce qu'on a diffusé beaucoup de musique. Vous avez été nombreux à demander les références, etc. C'est vrai que c'est un continent de musique, hein, ce sous-continent. Et aujourd'hui, donc, une balade à Ahmedabad et encore un tour à Saring, près de Baroda. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis. Je répète encore le numéro. C'est votre répondeur pour vos grains de sel et vos grains de sable. 0156 40 37 37.
Bonsoir Daniel Mermet. 25 roupies par jour, c'est peu pour s'alimenter. Les pauvres Indiens, ils n'ont pas les restos du cœur, eux. Et peu savent lire. Ils ignorent Alfred Jarry. Alfred Jarry qui, à la fin de sa vie, sur son lit de mort, murmure « Jeuche, jeuche, jeuche » comme le souffle d'une locomotive à vapeur. « je cherche. » Le docteur Saltas se penche vers lui. « Que voulez-vous ? » ?»« Un cure-dent, » répond Jarry, et il meurt. Il y a dans le cure-dent toute la symbolique de la pataphysique. Le cure-dent comme réponse. La réponse à ceux qui pensent que ce qui fut pensé ne fut jamais assez pensé. Le cure-dent comme l'objet de tous les paradoxes. Le cure-dent comme métaphore de l'être. Les pauvres Indiens, ils ignorent Alfred Jarry et la pataphysique de la création, mais peut-être pas celle de l'insolence, celle qui tire la langue aux jérémiades, celle qui ne pleure pas, celle qui rit, celle qui ne dit pas « Amen », mais « Merdre ». Un merdre qui déchire l'horizon, ébranle les montagnes, résonne comme les cloches tibétaines de vallée en vallée. Ha ha! C'est Pierre d'Ardèche qui vient de vous lire les dernières lignes du merveilleux livre de Daniel Accursi, La Nouvelle Guerre des Dieux. Bonne soirée à tous. Au revoir.
Le regroupement pédagogique intercommunal de Champs-du-Bout, Saint-Mans-Vieux-Bocage et Ménil-Clinchamp dans le Calvados, près de Vire, est menacé par la fermeture d'une de ses 8 classes à la prochaine rentrée 2004. Il faudrait 26 élèves en moyenne par classe, au lieu de 22, comme il y a 7 ans au moment de sa création. Or, le nombre d'élèves scolarisés va croissant. C'est pourquoi nous refusons la fermeture de cette classe, dont nous pensons qu'elle risque de nuire gravement à la qualité de l'enseignement et fragiliser nos communes. Nous appelons à un rassemblement devant l'inspection académique, mercredi 28 janvier 2004 à 16h, place de l'Europe à Hérouville-Saint-Clair. Un départ est prévu à 14h30 à la salle des fêtes de Ménil-Clinchamp. Les habitants des communes du RPI.
Bonjour. Alors, je viens d'entendre donc une émission sur le système des castes en Inde, qui est un système basé sur la naissance. Et moi, je voulais vous parler d'un pays d'où je viens et où on trouve aussi ce système de castes. Je voudrais vous le décrire en deux mots. Alors, il y a le système de castes en question. Hein, je vais vous le décrire en deux mots. Il y a la caste des homéoliens, ceux qui sont capables d'interpréter des textes ésotériques et qui disent comment fluctue l'argent. Puis, il y a ceux qui attendent que les homéoliens leur dictent leur conduite. Ce sont les écloseurs techno. Ils vivent dans de grands bâtiments remplis de machines sur toute la planète. Puis, il y a les baronneurs, ceux qui entrent et qui sortent des grands bâtiments, en espérant que ça va continuer comme ça indéfiniment. Puis, il y a les néocoles. Ce sont ceux qui restent à la porte et qui attendent qu'on vienne s'occuper d'eux. Ah oui, ce qui est rigolo, c'est qu'on dit aussi les intouchables depuis peu. Parce que c'est le chômage qui est devenu intouchable. Essayez de trouver ce drôle de pays dont je viens. Ah oui, et puis une dernière chose aussi. L'appartenance au système de caste dont je viens de vous parler, selon les dernières statistiques, c'est à la naissance qu'il se détermine. Voilà. Olivier Épinay sur scène.
Voilà, il neige. Ça a été le bordel l'année dernière. Bloqué sur l'autoroute pendant plus de 10 heures et rebelote. Ça tombe encore cette année. On a vraiment l'impression que tout ça ne sert à rien, donc j'anticipe par logique. J'imagine que l'été prochain, on aura encore une bonne grosse canicule et tout le monde s'en fout. Donc je ne sais pas encore contre qui je vais porter plainte cette année. Peut-être Cochiroute, peut-être Météo France. Je ne sais pas encore, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va bien falloir trouver un nouveau bouc émissaire. Ciao.
Namasté, c'est Daniel Mermet avec Guy Ventil. Là-bas, si j'y suis, Inde dernière. Là, on aperçoit des cabanes en ruine, comme un petit bidonville le long des champs. C'est des gens des tribus d'autres États qui viennent travailler là pour la canne à sucre. Donc, ils gagnent 20, 25 roupies par jour, 3 francs, 3, 4 francs par jour, 5 francs. Et en même temps, on entend le portable qui sonne. Alors, on se dit, oh là là, quel contraste extraordinaire entre cette pauvreté, cette relégation, et le portable, qui est le symbole de la modernité, etc. Mais pas du tout. En fait, il n'y a pas de contradiction. Le portable n'est en rien le symbole du progrès. Mais on aime bien opposer deux notions comme ça.
Bah oui, c'est vrai ça. Cette vieille histoire de terre de contraste qui voudrait que cette modernité clinquante à paillettes technique soit la garantie d'un développement, d'un progrès humain. On sait bien que non. La barbarie, on peut parler d'une barbarie dans ces campagnes arriérées du Gujarat, arriérées pas tant que ça, puisque c'est, je le rappelle, ce sous-continent est à 70% rural, donc les conditions faites aux travailleurs dans ces zones-là sont une généralité en Inde. Opposer technologie moderne et arriération, c'est faux, c'est simplement faux. Voilà, on continue aujourd'hui, se balade toujours dans l'état du Gujarat. On va faire un tour à Ahmedabad, on va même essayer d'aller au cinéma, c'est notre dernier jour, on se détend un peu, mais auparavant, on reste quand même dans cette région, dans ce village de Saring, près de Baroda, dans la zone tribale, avant de rentrer sur Ahmedabad. Un clin d'œil quand même avant de quitter ce pays. Ce qui est bien, ça fait partie des pays où on a l'impression qu'on est passé à côté. Tellement il y a profusion de vie, profusion d'idées, profusion de scènes, d'inventions, de révoltes aussi, qu'on peut pas, on sent bien qu'on n'arrivera pas à faire rentrer tout ça dans une seule définition. Et il faut s'en réjouir. Le principe, c'est de s'en réjouir et de partir heureux et dérouté de ce pays qui nous déroute. Ce qu'on a oublié, c'est que l'Inde nous a donné le Kama Sutra et qu'on a encore oublié d'aller voir le temple de Khajuraho. C'est une scène, j'en reviens pas de voir ça. C'est la canne à sucre. On est en train de broyer la canne à sucre dans ce grand champ où on a des déchets de canne. Où on est en train d'enfourner les cannes dans une machine qui les broie avec le jus qui sort là, le jus de canne qui sort là, et avec ces vieux moteurs qui font un boucan pas possible. Avec une fumée là-bas qui sort toute noire. Ça me fait penser à un dessin de Dufy qui représente le battage avec des machines à vapeur. Tout à fait cette même scène, il y a le soleil qui se couche, et le soleil se couche au-dessus de cabanes en branches, où s'abritent et vivent les travailleurs, et les travailleuses surtout qui sont là. Il y a même des gosses qui sont en train de bosser, et c'est les saisonniers, c'est les gens qui viennent là à la saison.
À bientôt.
Les femmes tribales.
Ah, c'est les femmes tribales.
En fait, là, ils pressent les cannes pour récupérer la pâte de sucre qui est là-bas. Et en fait, la plupart des ouvriers sont en train de travailler à étendre par terre des chutes de canne à sucre pressée. Parce qu'une fois séchée, c'est ça qu'ils utilisent comme combustible pour faire chauffer la marmite. Quoi.
Ah, d'accord.
Vous avez vu comme c'est joli? Après, c'est une espèce de pâte jaune là-bas.
On dirait des confitures. On dirait qu'ils sont en train de faire des grandes confitures, en fait. Peu à peu, on va finir par oublier, ignorer comment est fabriqué ce que nous consommons, ce que nous mangeons. On va plus savoir d'où ça vient, comment c'est fait, par qui c'est fait, si, comme on nous le promet, la Chine devient l'atelier du monde, et puis l'Inde serait le bureau du monde. Et nous, eh ben, un morceau de sucre, une friandise, on ne saurait plus du tout comment c'est fait. On serait incapable d'expliquer à nos enfants comment c'est foutu. Ça se consomme, et puis voilà tout. Voilà un endroit, vers Saring, donc dans la Tribal Belt, la ceinture des tribus du Gujarat, la récolte de la canne à sucre. Il y a les Dalits qu'on a rencontrés, il y a les tribaux, c'est encore une autre catégorie, et puis il y a les nomades. Et au Gujarat, il y a comme ça, dans cet état de 50 millions d'habitants, il y a 4 millions de nomades qui n'ont évidemment absolument aucun droit et qui vivent en se déplaçant comme ça au moment des récoltes, tantôt la canne à sucre, tantôt le coton, tantôt des lentilles, des pommes de terre ou des selon les moments de récolte, et qui sont là dans cette exploitation. On peut vraiment employer le mot d'exploitation de la canne à sucre.
Hey, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le patron ici, vous?
Ouais.
Ça veut dire que vous êtes un patel?
Ouais.
Ah, ça y est, on a compris. Vous employez combien de personnes?
80 à
100.
Mais pas toute l'année, là, c'est simplement en ce moment avec la récolte.
Ouais. Ouais.
C'est 5 mois.
5 mois. Les gens viennent d'où?
Oh, ben d'abord, là, oui.
Ils viennent de l'extérieur.
Un peu, oui.
De Madhya Pradesh.
Les tribaux.
Ouais.
Pourquoi vous les faites venir de si loin? Parce qu'ici, sur place, vous ne vous trouvez pas?
C'est leur spécialité.
Préparer du
gourd,
c'est leur spécialité.
Ouais. Combien on gagne ici?
60 à 70 roupies.
Ah, ils gagnent 60 à 70 roupies par jour. C'est drôlement bien payé. L'équivalent de 10 francs pour 8 heures de travail. Ouais, ils viennent avec leurs enfants, avec toute la famille.
Toute la famille.
Et après, ils rentrent dans leur village là-bas.
Ouais.
Et ils sont jeunes, hein?
Il
y a des enfants là.
Oui, il y a des enfants aussi.
À partir de quel âge?
Oui, voilà.
13 ans.
13 ans. Et toi, tu gagnes combien par jour?
50
roupies.
50 roupies pour 13 ans. C'est-à-dire 1 dollar.
Oui, on fait le petit boulot.
Bah, le petit boulot, c'est quand même pas facile. Hein. Ouais. Il est au-dessus du fourneau, là, je le vois. Le petit boulot, c'est un sacré petit boulot, quoi. Il va à l'école?
Non.
Il va pas à l'école.
Non.
Les enfants des patels, ils vont à l'école.
Mais bien sûr.
Les patels sont plus malins.
Ouais. Ouais,
c'est ça. Les patels sont plus malins, plus riches.
Ouais.
Et plus gras.
C'est un patel, il est malin.
Oui, enfin, pas tant que ça. Et quel est l'âge minimum pour faire travailler les enfants en Inde?
18.
Ben voilà, un enfant qui est en avance, qui est précoce.
C'est un surdoué
du travail.
C'est une exploitation.
C'est une exploitation, tout simplement. On va demander aux enfants là s'ils travaillent. Ils sont un petit peu affolés. Ils sont très farouches, hein.
Un
pauvre campement de feuilles, de branchages, de bouts de hardes, de bouts de chiffon, quelques gamelles. C'est le gamin qui fait à manger. Il est très content parce qu'il a une montre, le gamin. Bonjour.
Kencho.
Alors, vous travaillez ici, vous êtes venu travailler, vous venez d'où?
MP,
de Madhya Pradesh.
Vous venez ici tous les ans?
Oui, chaque année.
Alors, toute la famille travaille?
Non, pas les enfants.
À partir de quel âge ils travaillent?
À partir de 10 ans.
Et ils les payent à partir de 10 ans ou c'est comme ça, juste gratuit?
Pas autant que nous.
Et vous, c'est combien?
55 roupies. De 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir.
6 heures du matin, 7 heures du soir, 50 roupies. 1 euro pour 13 heures de travail. Et les enfants de 10 ans, ils les prennent, mais ils les payent autant. Donc ici, dans la famille, vous travaillez, le fils, il travaille, votre femme, elle travaille?
Non.
Vous avez combien d'enfants?
3 enfants.
3 enfants. Elle travaille pas. On se demande pourquoi, tiens. C'est avec ça qu'il travaille. Tu vois la serpette qui est par terre à côté du pied du gosse, qui est très affûtée, très effilée. C'est avec ça qu'on coupe la canne à sucre. Et voilà, comme ça, il y a quelques cabanes. Il ne faut pas grand-chose pour les aider. Il n'y a même pas une bâche. Et rien n'est prévu.
bien est prévu. C'est eux-mêmes qui font leur cabane. C'est vraiment la surexploitation, quoi. C'est une situation d'esclavage.
Ça, c'est une des portes de la vieille ville. Mais c'est incroyable l'activité, la tension, la pression, le fourmillement de cette ville. J'ai jamais vu ça, peut-être depuis Sanaï encore. Là, sous les portes de la ville, on vend absolument de tout. On vend des cordes de couleur, on vend des fleurs, on vend des bobines, on vend des clés, comme si c'était les clés de la ville. Ici, on vend des pièges à rats. On nous a raconté une histoire de Dali qui était ramasseur de rats. C'est une activité absolument délirante. Et là, en face, il y a les vieilles maisons de la ville, les vieilles maisons avec des façades de bois, des terrasses décorées. Et là, on voit sur la terrasse une série de photos de familles qui sont en train de finir de pâlir et de jaunir. Et c'est une folie de rickshaw, de pollution. On ne sait même pas ce qu'ils vendent. Ils ne savent même plus ce qu'ils vendent eux-mêmes. Le sac, la plupart des gars. Non, ça, c'est quand même plutôt la plomberie. On va avancer par là.
Hello.
Hello. Ahmedabad, là on va se balader, on va se laisser porter dans la furie, l'énergie, la tension, la pression de cette ville, dans la partie bazar de cette ville d'Ahmedabad, donc capitale de l'état du Gujarat. C'est une ville où la culture hindoue rencontre, se mêle et s'affronte avec la culture islamique. Non pas, j'ai pas dit islamiste, mais islamique, c'est-à-dire l'islam, c'est-à-dire l'influence moghole qui a été très importante et qui a dominé cette région, et puis une partie de l'Inde, une grande partie de l'Inde, et puis la culture hindoue. Donc je rappelle quand même qu'il y a 2 ans, il y a eu ces terribles pogrom dans cette ville. On a l'impression, si on a l'œil distrait, que rien ne s'est passé, mais assez vite, en parlant avec les uns ou les autres, on sent une tension, une défiance, une méfiance, une peur. Et si on parle encore plus longtemps, on sent que les choses sont quand même très très bloquées dans le cœur et l'esprit des gens. Mais là, on se laisse aller, on se balade au gré de la foule et du bazar d'Ahmedabad.
Ça, c'est quoi? C'est
tous les oiseaux.
Ah, c'est des cages à oiseaux, des pièges, des cages à oiseaux. Évidemment, ce qui est touchant, évidemment, en Inde, c'est que tout est fait à la main et rien ne ressemble au reste, parce que pour l'instant, la grande distribution mondiale n'est pas arrivée encore jusque-là. Et les objets, là, il y a un gars qui vend du thé, voilà, qui est en pleine rue.
On va boire un thé.
Voilà.
Il est étonné, il n'a jamais vu quelqu'un qui boit le thé comme ça.
En prenant la tasse, parce que la tasse ne sert qu'à se...
Parce que le jeu, ça consiste à renverser le thé dans la soucoupe et à boire dans la soucoupe.
Il traverse, il passe en deux allées comme ça, en faisant ce bruit-là pour savoir qui veut du thé.
Comment vous vous appelez?
Alam.
Alam.
Et vous vendez du thé au lait?
Tiens, oui.
Ouais, seulement le thé.
Combien vous vendez de tasses dans une journée? 300 tasses de thé par jour. Combien c'est la tasse?
2 roupies.
Et vous faites quelle longueur de trottoir comme ça?
50.
50 mètres?
Kilomètres.
50 kilomètres? Il fait 50 kilomètres par jour.
Bihar.
Il vient du Bihar.
What is your name?
Daniel. Alors, quand des femmes voilées, les musulmanes voilées de noir, mais elles sont très très chiques, hein. Voilées peut-être, mais avec des sacs marqués des copies de Dior. C'est très très chic, hein, l'islamisme ici. Alors évidemment, on différencie des femmes hindoues, et elles arborent leur bindi, petit rond rouge entre les sourcils, ostensiblement. On entend le bruit du marchand de thé. Et on continue. Là, c'est un marchand de cordes. Ça, c'est un marchand de cannes. Marchand de balais. De paillassons.
Il y a même le marchand d'élastiques au poids.
Ah oui, oui. Oui, vend des élastiques au poids. Alors, il y a une activité étonnante en ce moment. C'est avant la fête des cerfs-volants. C'est une fête très, très importante, les cerfs-volants. Où, évidemment, il y a compétition entre les musulmans et les hindous, dans les rues, comme ça. On est en train de colorer les fils, les enrouleurs de cerfs-volants, hein, qui doivent être magnifiques, qui doivent être étincelants, qui doivent parfaitement fonctionner. Et on est en train, dans les rues, de tendre des fils que l'on teint à la main, en rose, en jaune, en orange. Et alors, il y a une autre activité dans certaines ruelles. On voit des femmes en train de casser avec une masse, de casser des bouteilles de Coca-Cola ou des bouteilles de soda. Elles en font de la poudre. Et cette poudre, on la colle sur les fils des cerfs-volants. Pourquoi? Parce qu'on va livrer des combats entre cerfs-volants. C'est-à-dire qu'on va orienter les cerfs-volants de façon à ce que les fils se touchent, se frottent et avec la poudre de verre finissent par scier l'autre fil. Donc c'est des combats de cerfs-volants qui vont avoir lieu, évidemment des combats entre musulmans et entre hindous. Et on nous dit que ça, très souvent, ça dégénère en bagarre, parfois même en émeute, à l'occasion de cette fête de cerfs-volants. Ça, c'est un marchand de manches de poils et de mode d'emploi de cocotte minute. Il n'y a pas les cocottes minutes, mais il y a le mode d'emploi. Et le manche. Ok.
Ça c'est pour klaxonner ça. Il n'y a plus de klaxon en fait, donc il tape sur la carrosserie quoi.
Il y en a 7. Ils ont tous des compteurs, hein. Des compteurs comme les compteurs de taxi, les taximètres. Ouais, c'est les cyclotaximètres passent leur retraite. Dans le Gujarat. Ils vendent des épices là-bas, regarde. Des épices superbes.
On va malheureusement pas pouvoir traverser. Bouge de là, te dit-elle en levant les sourcils.
La petite dame.
Là, on vend des épices. Ça, c'est le confiseur avec les bocaux multicolores. Là, c'est les dattes. Le marchand de dattes avec le cuit de mouche. Ils vendent peut-être, je sais pas s'ils vendent des mouches. Ça, c'est quoi ces blocs de... C'est du sucre, ça, non?
Ouais. Ah, mais c'est le sucre qu'on a vu faire par les adivassis.
Ah, ouais. Il arrive en bloc ici, hein. Avant d'être cristallisé, des sacs entiers de piment avec un charou qui se domine au soleil. Là, c'est le parfum.
Là, ça ne passe pas loin des latrines, là.
Ah oui. Ah, les odeurs sont fortes, hein. Les odeurs fortes.
Tout de suite après, on passe à un truc super parfumé, là.
Ah oui, toutes les odeurs sont fortes. Odeur de pisse, odeur de poisson, de marché au poisson. Odeur d'encens, toutes sortes d'encens, hein. C'est pas un seul encens. Là, il y a un petit temple au-dessus du marchand de couleurs.
Il y a une moto Enfield là. Ces motos qui, je crois, se fabriquent toujours, qui sont des motos légendaires. Voilà, on est en train de ressentir de la Philippine. C'est un bazar infernal. J'ai rarement vu, jamais vu même un bazar pareil. Vraiment le bazar. Bazar pour nous, évidemment, parce qu'on ne sait pas lire ni décrypter tous les systèmes, les commerces, les échanges, les allées et venues, les raisons d'aller et de venir de chacun dans tout ça. Là, on vend de l'huile, on vend du jus. C'est du jus de citron, les choses noires, là, hein, dans les bouteilles noires. Ah, ça, superbe, là, on vend des images des divinités. Il y a une vache paisiblement accroupie. Là, on vend de tout, on vend des oignons, on vend de l'ail, on vend des fruits et des légumes qu'on n'a jamais vus, ou au contraire, qui sont très familiers. C'est l'un ou l'autre. Là, il y a des attroupements, c'est pas pourquoi. Ça, c'est une autre porte de la ville. Là, on vend des miroirs, là, on vend des bijoux, là, on vend des bananes. Des saris, des parfums, des porte-clés, des gobelets en plastique multicolores, des flingues en plastique pour les enfants. Ah, c'est très beau parce qu'il y a tout un tas de miroirs au pied de ce château. Où on voit toute la ville qui grouille dans tous les sens. Là, les rickshaws, les rickshaws infernales. Keep your city clean and green. Keep your city clean and green. Grandes affiches pour les films de Bollywood. Voilà le cinéma. Et c'est quoi le film?
Calhounaho.
Calhounaho,
ouais.
C'est quoi?
C'est-à-dire, qui sait si le lendemain arrivera ou non?
Qui sait si le lendemain arrivera ou non? Bon, ça, c'est pas mal, c'est prometteur. Alors.
Caisse. 30.
Combien ça coûte?
50 roupies en billet. 150.
Ah, c'est des places numérotées.
Ah ouais.
Ancienne.
Ouais.
Regarde avec le balcon, l'étage supérieur, comment se placer.
Ah, ça commence à. Mais ça va commencer là.
Ouais.
Alors voilà, oui, il faut absolument aller au cinéma quand on se balade un peu en Inde. Le plus grand cinéma du monde, l'Inde. Bollywood. Eh oui, Bollywood à Bombay, Mumbai aujourd'hui, est la plus grande Mecque du cinéma. Même si la production baisse un peu, on produit encore 200 longs métrages chaque année dans les studios de Bombay. Depuis entre 1931 et 1999, l'Inde a produit plus de 30 000 films, ce qui fait de l'Inde le plus grand producteur mondial de l'histoire du cinéma, une histoire qui a commencé en 1897 quand le premier film a été réalisé en Inde. J'ai pris cette date de 1931 jusqu'à 1999 parce que 1931 évidemment c'est l'apparition du cinéma parlant. Aujourd'hui encore le cinéma en Inde emploie plus de 2,5 millions de personnes qui, de près ou de loin, travaillent dans le cinéma. Alors, on va dans une, avec notre ami Prit qui s'y connaît, parce qu'on est dans sa ville, on est à Ahmedabad, et qu'elle est une friande spectatrice de cinéma. Eh ben, on s'était promis d'aller au Cinoche. Alors, c'est formidable parce que c'est quand même un peu, au moins là, à Ahmedabad, et dans cet état du Gujarat, qui est un état réputé pour être moderne et riche, les salles légendaires ont tendance à disparaître, comme chez nous, ça a été le cas, avec l'apparition des multiplex, si bien que la nostalgie, la poésie des grands cinoches d'autrefois auraient tendance à se perdre dans cette partie de l'Inde. Mais on s'est laissé dire que c'était pas le cas partout, et que les projectionnistes itinérants continuent d'arpenter le sous-continent dans les villages avec des haut-parleurs qui avec ce son très particulier, et puis on projette sur des toiles ou sur des murs encore à travers le pays. C'est une passion nationale, c'est une si le cinéma est tellement aimé en Inde, c'est qu'il y a une qualité particulière du public, bien évidemment, et ça me conforte dans l'idée que je me fais, une idée un peu personnelle de l'Inde comme le premier producteur mondial de mythologie quotidienne. Au moins, le cinéma en Inde donne raison à cette définition. La séance commence et bien sûr c'est la dernière.
कुछ बोलोगे भी कैसे गाइड हो
C'est un moment formidable parce que pendant ce temps-là, à travers la lucarne, on aperçoit l'écran qui projette les pubs. Là, c'est une pub pour une moto ou bien pour les prochains films. Le prochain film de Bollywood qui va être projeté dans cette salle. Et c'est un vrai projectionniste à l'ancienne avec un énorme projecteur, enfin deux évidemment, surmonté de tuyaux de poêle qui embarquent la chaleur, parce que évidemment ça chauffe ces trucs-là. Il y a un ventilateur, puis il y a le projectionniste là qui sourit gentiment, qui nous laisse faire, avec les ombres portées sur le mur, comme ça, des figures et des personnages par rétro-projection. Ça, c'est très beau, c'est vraiment des moments magiques, quoi. Depuis quand vous êtes là ?
Et ça, mon gars ?
Depuis
30
ans.
30 ans ? Vous avez passé combien de films comme ça ?
Au moins
1000.
1000 ? Avec les mêmes machines ?
Ah,
ouais.
Génial. Quel est le plus beau film que vous avez projeté ?
Cholé.
Qui fut le plus grand succès du cinéma indien.
Cholé.
Cholé. Avec Amitabh Bachchan. Comme Hindustani, c'est un autre film. Un grand succès.
Et le public a changé ?
Au-delà.
Non, maintenant tout est changé.
Maintenant, il y a plusieurs salles de cinéma dans la ville.
La salle est pleine seulement s'il y a un nouveau film, sinon les gens ne viennent pas ici. Là maintenant c'est la quatrième semaine de ce film.
Il marche bien celui-là ?
Bon, vous
serez. Oui, très bien.
Ça, mais...
Il va commencer le film.
Allez, si on va voir le film. Allez, au revoir. On va voir le film. On va au cinéma. Ah, on monte au balcon. Ça, c'est un... Oh, il y a de la place. C'est très, très grand. Ah, il y a un petit bar. Et voilà, on rentre dans la salle.
Ah, c'est générique, on arrive pile pour le début.
C'est l'actrice qui se balade le matin dans la ville de New York et elle dit que tout le monde est pressé pour tout faire à New York. Pour sortir de la maison, pour arriver au bureau, pour tout faire. Mais cette ville n'a pas pu m'apprendre l'amour. Je m'appelle Nena Catherine Kapoor. Et c'est ça mon histoire.
C'est la troisième fois que notre amie Prit, notre chère traductrice très talentueuse, va voir ce film. On lui a dit, tu ne voulais pas nous emmener au cinéma. Elle a dit, si, mais c'est pour voir pour la troisième fois ce film, son film. Et pourquoi ça l'intéresse à ce point? Eh bien, parce qu'elle est Gujarati. Elle est de cet état du Gujarat qui compte beaucoup d'expatriés, beaucoup d'Indiens, comme on dit, des États-Unis, de Grande-Bretagne, et même en France, à Paris, viennent du Gujarat. Et alors, c'est dire si New York occupe une place dans l'imaginaire à la fois, c'est la ville qu'on convoite et c'est la vie qu'on redoute, puisque, comme vient de vous le dire Prit, oui, bien sûr, New York, mais tout comme l'actrice à laquelle Prit évidemment s'identifie, est-ce bien le lieu où on peut rencontrer l'amour?
C'est la mère de l'actrice. Le père de cette actrice, il est mort. Et puis la mère, elle a un petit restaurant au centre-ville qui ne marche pas bien. Et elle a besoin de l'argent. Sa mère, sa grand-mère, elle veut qu'elle se marie maintenant. Et donc, elle envoie ses photos avec son CV dans les bureaux de mariage. Mais cette fille, elle le déteste. Très tôt le matin, la grand-mère et les tantes, elles commencent leur musique horrible et tout le monde en a marre maintenant. La mère de l'actrice, elle est chrétienne, alors que la famille est hindoue. Un autre ami. Il s'appelle Rohit Patel. Son père, il est un des plus riches Gujaratis de l'Amérique. Rohit, il est tout le temps en train de draguer les filles. Il a eu des échecs, mais il n'abandonne pas, il continue.
टूटे हुए भावों ने
हमको ये सिखाया है दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है टूटे हुए ख्वाबों ने हम ढूंढते हैं उनको जो मिल के नहीं मिलते रूठे हैं न जाने क्यों मेहमान वो मेरे दिल के मेहमान वो मेरे दिल के क्या अपनी तमन्ना थी क्या सामने आया है दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है टूटे हुए ख्वाबों ने लौटाई सदा मेरी टकरा के सितारों से उजड़ी हुई दुनिया के सुनसान किनारों से पर अब ये तड़पना भी कुछ काम न आया है दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है टूटे हुए ख्वाबों ने
ce jour-là à Ahmedabad j'ai noté deux phrases courtes sur mon carnet vous en avez tué 2000 il fallait en tuer plus c'est quelqu'un qui a dit ça à l'issue des massacres de 2002 ça c'est une phrase et une autre if we want we can change cause we are human being first cette deuxième phrase elle est de Gandhi voilà c'est entre ces deux phrases qu'on s'est baladé à Ahmedabad et au Gujarat. Merci à tous. Merci à Prit Pandia. Montage Yann Chouquet. Reportage Guy Vanctil. Technique aujourd'hui Michel Thomas et Antoine Viossa. Répondeur Christophe Imbert. Musique Koyen Guyen et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Le numéro du répondeur de la base où j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et le mail de la base où j'y suis, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Il est 18h sur France Inter. On se retrouve demain pour cette dernière balade musicale en Inde demain. Je vous laisse pour le journal avec Odile Martin. Salut!